Antoine est un Égyptien, né en 251 de parents nobles et assez fortunés, contrairement à la majorité des autres moines issus de milieux paysans. On ne sait toutefois quel était son niveau d'éducation, ni même s'il savait écrire. Sa décision de mener une vie solitaire n'a en tout cas aucune motivation intellectuelle. Vers l'âge de 20 ans, dit Athanase, il décide tout simplement d'appliquer à la lettre des consignes évangéliques. « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et viens, suis-moi, tu auras un trésor dans le ciel et ne vous préoccupez pas du lendemain. » Cependant, il ne gagne pas directement le désert. Dans un premier temps, il se mêle aux ascètes qui vivent aux alentours de son village et il apprend d'eux les rudiments de la vie érémitique. L'ascèse, du terme grec « askésis », signifie en effet « exercice », pratique. Il s'agit d'une discipline destinée à dominer le corps afin de libérer l'esprit en l'ouvrant à la contemplation. Dominer le corps, c'est dompter les instincts, qui sont les instruments par lesquels le diable tente de séduire et donc de capturer l'esprit. Dès ce moment, Antoine est assailli de tentations. Il se voit menacé par des bêtes monstrueuses et surtout il est tenté par la luxure. Le diable lui suggérait des pensées obscènes. Antoine le repoussait par la prière. Le démon l'excitait. Lui, rougissant, munissait son corps par la foi, les prières et le jeûne. Le diable misérable en venait à prendre, de nuit, l'aspect d'une femme, à en imiter les gestes à la seule fin de séduire Antoine. Mais lui, mettant le Christ en son cœur, méditant sur la noblesse qui vient de lui, sur la spiritualité de l'âme, éteignait le tison de la tromperie du démon. Au bout d'un certain temps, Antoine, endurci par les combats contre les démons, s'éloigne du village et va s'installer dans une plus grande solitude, dans un ancien cimetière, probablement dans un tombeau creusé dans la roche. Il entra dans un de ces tombeaux, ferma sur lui la porte et y demeura seul. Un de ses amis lui apporte à manger de temps en temps. Le démon redouble ses attaques. Vacarme nocturne, apparition monstrueuse. Les démons firent irruption, métamorphosés en bêtes et en reptiles. Tout le lieu fut rempli de spectres de lions, d'ours, de léopards, de taureaux, de serpents, d'aspics, de scorpions et de loups. En 285, selon Athanase, Antoine, ayant surmonté ses épreuves, devenu un athlète de l'ascèse, franchit une autre étape toujours plus loin, toujours plus seul, et s'établit dans un ancien fort en ruine, infesté de serpents qui tout de suite abandonnent les lieux. Antoine bouche à l'entrée, il avait apporté du pain pour 6 mois. Les Thébains font des pains qui se gardent toute l'année. Comme il y avait de l'eau à l'intérieur, il ne sortait pas, ne voyait pas ce qui venait. En effet, en dépit des apparences, sa solitude est toute relative. Le paradoxe de l'ermite, c'est que plus il recherche la solitude, plus il attire la foule, comme si la solitude était vouée à s'autodétruire. Antoine reste 20 ans cloîtré dans son fort. Mais ses admirateurs campent tout autour, de plus en plus nombreux. Ils lui passent de la nourriture par-dessus la palissade, regardent par les fentes, entendent des bruits bizarres ou un vacarme épouvantable quand l'ermite se bat contre ses démons. Au bout de 20 ans, ils n'y tiennent plus. Ses amis vinrent, brisèrent et enfoncèrent sa porte. Alors, pour la première fois, ceux qui venaient le virent. Et ils furent stupéfaits. Son aspect était resté le même. Il n'était ni engraissé par le manque d'exercice physique, ni décharné par les jeûnes et la lutte contre les démons, mais tel qu'on l'avait connu avant sa retraite. L'athlète a donc gardé la forme. Il a maintenant 55 ans et se dit que décidément, on ne peut jamais être seul. Il accepte à la demande de ses admirateurs d'aller à Alexandrie, à plusieurs centaines de kilomètres, pour soutenir les chrétiens persécutés. Les ermites du désert égyptien sont toujours partagés entre l'amour de la solitude et le devoir de charité. Constamment assailli par des disciples et des admirateurs qui demandent des faveurs, miracles, aides, conseils, il s'efforce de faire bonne figure, de présenter un visage aimable. Les rédacteurs des Vies des Pères du désert insistent sur ce fait. L'ermite est le contraire d'un misanthrope. Il est constamment relié au monde, à la fois par la prière et par les contacts humains réels. L'ermite Antoine a certainement rencontré plus de gens que la plupart des urbains de son époque. Sa solitude est un mirage, car on afflue pour voir et entendre le solitaire. Il décide alors d'aller encore plus loin. Se voyant dérangé par la foule, empêché de vivre dans une retraite à son idée et à son gré, redoutant de s'enorgueillir des œuvres que le Seigneur faisait par lui ou de devenir l'objet de commentaires, il délibéra et décida de partir pour la haute Thébaïde où nul ne le connaissait. Ayant traversé le fleuve, toujours muni de sa provision de pain, 6 mois de consommation représentaient au bas mot 50 kilos, ce qui est tout à fait invraisemblable, mais nous sommes en pleine hagiographie. Il se joint à une caravane qui se dirige vers l'est. 3 jours et 3 nuits, il fit route avec eux et parvint à une très haute montagne. Au pied coulait une eau limpide, douce et fraîche. Plus loin s'étendait un plateau où poussaient quelques palmiers sauvages. L'endroit est idéal. Il décide de s'y arrêter. Enfin seul ? C'est ce qu'il croit. Mais il faut vite se rendre à l'évidence. Solitude et célébrité sont incompatibles. Dès que le lieu de la nouvelle résidence est connu, même les caravanes font le détour pour venir le voir et son ermitage sur le mont Kolzoum devient pendant 50 ans le lieu le plus fréquenté du désert. D'abord fourni de pain par ses compagnons, il resta seul, absolument seul sur la montagne. Il regardait ce lieu comme sa demeure. Les Sarrasins eux-mêmes, admirant son zèle, passaient exprès par là et lui portaient du pain avec joie. Antoine se résigne donc. Il décide même de cultiver quelques légumes pour avoir quelque chose à offrir à ses visiteurs. Quant à lui, il reste fidèle à son régime basse calorie à base de pain qu'il fabrique lui-même en cultivant quelques céréales. Régime frugal, un repas par jour composé d'un morceau de pain avec un peu de sel et d'eau, toujours après le coucher de soleil, parce que manger est un acte des ténèbres. Cette frugalité lui permet de vivre jusqu'à 105 ans, protégé par une carapace de crasse. Pendant un demi-siècle, soumis aux ardeurs du soleil d'Égypte, il ne s'est pas lavé une seule fois et n'a pas changé ses haillons, écrit Athanase, admiratif. Il jeûnait chaque jour, portant sur le corps un vêtement de peau qu'il garda jusqu'à la fin. Il ne se baigna pas, ne se trempa pas, même pas les pieds, ne les plongeant dans l'eau que par nécessité. Sale, barbu, hirsute, maigre et en haillons, tel sera désormais l'aspect obligatoire de tout ermite qui se respecte, dont Antoine est le prototype. D'après Athanase, il était gouverné par la raison et établi en son état naturel. Il rejoignait le modèle original, l'homme nature, sorti des mains du Créateur. Adam le solitaire avant la création d'Ève, qui l'obligea peut-être à faire un brin de toilette. De tous les pères du désert, Antoine est resté le plus célèbre, en raison de la géographie pittoresque que lui a consacrée saint Athanase, qui a permis de stimuler l'imagination de dizaines de peintres dont les œuvres ont largement contribué à faire de lui l'icône de l'érémitisme. Cependant, tous ces tableaux ont pour sujet non pas saint Antoine, mais ses tentations. Et ils nous montrent un personnage qui, loin d'être solitaire, est entouré d'une foule d'êtres fantastiques qui s'affairent autour de l'ermite imperturbable. Des monstres qui s'agrippent à sa robe chez Martin Schongauer vers 1490, des créatures improbables qui gesticulent dans le paysage chez Jérôme Bosch, qui traitent deux fois le sujet, dans le triptyque de Lisbonne et dans le tableau de Madrid, fin XVe siècle. Et puis encore des monstres chez l'anonyme du Haut-Rhin, vers 1520, chez Lucas Cranard, 1506, chez Autodix, 1944. Ces représentations illustrent en fait les dangers et l'illusion de la solitude. L'ermite se croit seul, mais il est assailli par une foule de créatures sorties de son cerveau, de son imagination. Il peuple le désert de ses hallucinations, quand bien même il arriverait à s'isoler physiquement, ce qu'Antoine n'a jamais réussi à faire, comme nous l'avons vu. Histoire de la solitude et des solitaires par Georges Minois.